France Inter.
À tout à l'heure.
C'est la bande originale, bienvenue avec Léa, comme je t'ai dit. Avec Lisa, avec Camille, là-bas, avec Rebecca, incroyable. Le retour avec Tanguy Pastureau, Anne Delave.
Coucou.
Daniel Morin.
Coucou Camille.
Et nos invités, Elodie Bouchrasé.
Leïla Kadour et Nagui.
Absolument. Ravi, soyez les bienvenus, Elodie et Laurent. On va évoquer classe moyenne. Déjà, comment allez-vous?
Première question. Ça va très bien.
Super.
La plus urbaine possible en ce lundi ensoleillé. Le film sortira ce mercredi. On va évidemment en parler sur ce conflit des classes, sur le rapport qu'il y a entre l'autorité et l'employé. Petit tour de table avec, justement, avez-vous dans votre vie
des employés
privée rencontré des problèmes? Non, en tant qu'employeur ou employé, avez-vous déjà eu des conflits dans le boulot, mais sérieux,
Lisa. Oui, oui.
Pas des petits trucs.
Non, j'ai été virée, moi.
Oui, tout le monde a été viré.
J'ai été virée, vrai, et puis j'ai été dévirée.
T'as jamais été virée, toi?
Encore.
Non. T'as été virée, comment?
C'est un message.
Je sais.
J'ai été virée, et puis j'ai été dévirée.
Par le même?
Ouais, elle a regretté. Parce que s'est rendu compte qu'elle devait me payer des indemnités. Donc elle m'a envoyé un mail.
C'est pas du regret, ça. C'est pas du regret.
On est pas loin de...
On est dans le film.
Ouais.
On est totalement dans
exactement.
Le film. Ok, c'était quel job sans indiscrétion?
J'étais responsable de communication pour une société européenne de géologues.
Wow.
Je me suis beaucoup cherché.
Ouais. Bah, c'était hier.
C'était hier,
ouais. Camille, est-ce que tu as déjà eu des problèmes avec des boss?
Je sers. En plus, j'en ai fait plein des boulots, mais là, ça ne me dit pas. Je vous dirai peut-être à la fin de l'émission.
Très bien, Rebecca.
Je crois pas. Maintenant, je me demande, j'ai plein de doutes. Je me dis, tous les endroits où j'ai été, peut-être que les gens m'ont...
T'as jamais eu le côté le patron qui t'oblige entre guillemets à faire quelque chose que t'as pas envie de faire?
Non.
Qui t'impose un truc? Non,
c'est
Leïla.
C'est délicat.
T'as jamais été viré, toi non plus?
Bah non.
C'est fou.
Je suis toujours partie.
Bon, ça va.
Non, c'est pas ça, c'est que j'ai tellement été viré, je me dis, c'est normal. Ah oui. Dans la vie, c'est normal d'être viré.
Ouais. Non, il y a des choses qui s'arrêtent, ça te fait pas virer pour autant.
Ça,
quand on parle d'émissions, les émissions qui s'arrêtent.
Oh, ça, c'est exactement ce qu'il m'a dit. Au bout de 20 ans. RTL, au bout de 20 ans de CDD, ils m'ont dit, mais non, c'est fin de contrat, monsieur. Ça fait vraiment 20 ans.
Mais là, tu gagnes au prud'homme.
J'ai gagné au prud'homme.
Ben voilà, parce que 20 ans.
Au prud'homme, en appel, en cassation. Et même encore aujourd'hui.
Les droits de l'homme et tout.
Daniel
SCPI.
Oui, alors moi j'ai été écarté d'Inter à la fin de Stéphane Bern quand il avait terminé. J'ai reçu ma lettre comme quoi.
Quoi? Ils t'ont écarté à Inter?
Ils m'avaient remercié. Du coup, j'ai appelé la direction.
Ça a réussi en tout cas. Hein.
J'ai appelé la direction, j'ai dit bah non. Ils ont dit. Bon d'accord, on te rappelle. Et finalement, ok, tu restes.
Bah
je vais dire non.
C'était ça l'argument.
C'était ça, j'ai fait bon non.
Okay. Faut le dire poliment. Mais Oldelaf, ouais. Tu as déjà été viré ou pas?
Ouais, mais ça s'est fait à l'amiable, si tu veux, parce que c'est un petit boulot de manutention pourri. Et je devais commencer à 9h et je suis arrivé à 9h20, mais en disant, mais j'irai plus tard. Enfin, je finirai plus tard.
T'imagines si là, t'arrivais à 11h20 seulement?
Ça pose
tu
un
pourrais
problème.
Pas dire, je finis plus tard.
Ça pose un problème.
C'est un peu de la manutention quand on tient une guitare.
Exactement. En tout cas, je crée des tensions, en tout cas, mais.
Oh, joli.
Tanguy, et toi, Nagui,
non pas viré, non, jamais viré, des fins de contrat de grille, etc. dans les médias, mais ouais. rien que j'ai regretté ensuite.
Même dans les jobs gamins, tout ça, jamais.
Non.
Non, j'ai fait que du travail saisonnier. Moi, donc de toute façon, ça.
C'est interdit de faire travailler les enfants, Nagui. Ouais. Tu sais.
Non, mais moi, dans les premiers jobs que j'ai eu dans la série, j'y ai pensé en voyant notamment avec les guns, parce qu'il y a des guns quand même en classe moyenne. Ouais. J'ai travaillé dans une radio en Italie qui était à l'époque une radio pirate, donc c'était avant 81, et où on était payé 10 francs de l'heure, c'est-à-dire 1,50€.
Mais à l'époque, 10 francs, c'était...
Oh, on avait une pizza. À 10 ballons, on avait une pizza, c'est vrai.
Je sais pas combien c'était le SMIC à l'époque.
On était logés, nourris, donc un peu comme les employés dans le film. Logés, nourris, mais ça voulait dire qu'il y avait de l'eau, des pâtes et du riz. Et logés, on avait pas le droit. Une fois qu'on arrivait dans la radio, il y avait des mecs qui ouvraient avec des clés, il y avait des chiens de garde. On rentrait dans la radio et on ne pouvait plus partir.
Ouais.
On est...
C'est pas cette radio.
Radio Donjon.
Fleury-Mérangis FM.
C'est fait. Non, ça s'appelait Radio Midi dans le... Non, c'est au-dessus de Vintimille et ça émettait sur le sud de la France. Et t'avais pas le droit de sortir. En fait, il fallait attendre que le gars revienne et te libère en disant c'est bon, t'as fini ton antenne, tu peux repartir. Et on avait donc un gun. On avait une carabine de chasse posée sur la console de mixage. Et le patron nous avait dit, si les carabinieries viennent pour saisir le matériel comme la radio est pirate, vous tirez. Ah. Et je vous jure que c'est vrai.
Et ben c'est une bonne nouvelle que tu te sois fait virer. En
et
fait.
Donc
c'était pas viré.
C'était recevoir des ordres où tu dis mais je fais quoi en fait. C'est-à-dire que tu es totalement soumis. Tu dis mais qu'est-ce que je ferais le jour où la police n'est jamais venue heureusement.
Et si ils viennent on tire.
non c'était très bizarre, très bizarre. Mais c'est vrai que le pouvoir de l'autorité du patron qui dit tu fais ce que je te dis et tu obéis quand tu as un premier job et quand tu dis bah en plus, j'aime faire ça, j'ai pas envie de le lâcher. T'as du mal à dire non. Élodie, vous êtes déjà retrouvée à subir des ordres, quel que soit le métier d'actrice ou même de job d'été quand vous étiez ado ?
Pas vraiment, mais en fait, tout ce que vous dites là, ça m'évoque vraiment quand même le fait que... Parce que j'ai une amie des États-Unis qui m'expliquait qu'elle a été promue directrice de sa boîte parce qu'ils ont viré sa directrice, Malu Militari, comme dirait Laurent dans le film. Comme on voit dans les films, avec...
Tous les cartons posés sur le...
Effet immédiat.
Et c'est vrai que je pense qu'on... On se rend pas assez compte de la chance qu'on a quand même.
La protection sociale n'est pas la même en France.
En France, oui, d'être protégé.
Vous, Laurent, vous avez subi des ordres, des contraintes qu'on a pu vous donner, et pas forcément dans votre métier d'acteur. Hein,
pas forcément dans mon métier.
Non, dans la vie.
Si, dans votre métier d'acteur.
Avant mon acteur.
Non, j'ai été coupé au montage, c'est une manière d'être viré, ça.
C'est violent, sans savoir.
Oui, puis parfois...
Vous êtes payé, quand même.
Oui, c'est vrai que je suis payé. Oui, c'est vrai. Oui. Mais quand vous êtes viré, vous êtes payé pour le travail accompli aussi.
C'est vrai.
Non, parfois je l'ai appris à la projection, par exemple. C'est sympa quand le... Quand le réalisateur n'ose pas vous dire que vous avez été beaucoup, beaucoup coupé, vous le découvrez au moment de la projo.
Quel sentiment on a ? C'est de l'humiliation ? C'est de la haine ?
Plus jamais je bosserai avec ce mec ? Non, mais après, parfois, ils ont raison de couper. Il y a des problèmes de rythme, il y a des choses qui dépassent ce que vous avez fait, vous. Mm. Donc, il ne faut pas le prendre personnellement.
Quoi.
Faut pas le prendre personnellement. Mais ça, c'est une phrase un peu...
Avez-vous retravaillé avec cette personne ?
Oui.
Ah, quand même.
Ah. Oui.
Pas rancunier, c'est bien. Ils le sont. Alors, ce qui est fort dans Classe Moyenne, c'est qu'ils ont, et on va en parler dans ce film d'Anthony Cordier qui sortira ce 24 septembre, ce mercredi, c'est qu'ils ont tous des bons côtés, mais ils ont tous aussi des côtés très diaboliques. On peut s'attacher aux personnages principaux. C'est un film choral, puisqu'il y a deux couples, chacun avec un enfant, et puis il y a un jeune homme au milieu qui est l'amoureux et qui est un futur brillant avocat qui lui est dans l'ascension sociale, donc c'est le conflit des classes. Mais si vraiment on se met du point de vue de chacun, on se dit ouais, non, ils sont gentils, ils sont dans leur bon droit, et puis il y a des moments ils deviennent tous un peu des salauds dans les réflexions et
surtout Laurent Lafitte
lui il est détenu, c'est l'inverse. Dès le départ c'est un salaud et il peut s'arranger de temps en temps.
On choisit son camp.
Ça me va. Mais est-ce qu'on a dit que c'était un couple de bourgeois qui virait le couple de gardien?
Non, mais ça on en parle.
Bien maintenant.
D'abord voici Hold the Love qui vous aime.
Ouais, je suis fan de Laurent Lafitte. Oui, vous êtes fils d'un marchand bien, alors vous êtes gentil. En revanche, Daniel, lui, est fils d'un marchand de traîtrise. Il est faux, il est dangereux, personne lui fait la bise. Je suis fan d'Élodie Bouchès. Ouais, dans le film, une comédienne qui veut monter m'aider. Ok, cool, j'ai besoin d'aide pour les chroniques. Trop bien, vous commencez ce soir, demain, on a du riz, c'est Cotin. Et vous êtes ensemble avec nous pour Classe Moyenne. Genre la quatrième B, c'est vrai, c'est pas un gêne. Dans le film, on découvre vos vrais visages. On vous pardonne car ça se passe dans un petit village. Wow!
Oh, wow!
Quelle belle fête déjà! Bah oui, évidemment.
Vous reconnaissez?
Nagui a décidé qu'il fallait s'amuser d'une manière très spéciale pendant la bande originale. Il nous a programmé la mélodie bouchée. Et pour bien délirer, Laurent Lafitte a déboulé. C'est la fuite au village. Tous les gens sont contents. Toute l'équipe est déjà en âge pour s'abreuver. Léla a même ramené du rhum. rhum coca sans coca du tout. Daniel est sous, il se frotte contre mon genou en faisant des cris un peu chelous. Ça aussi c'est chelou. Je suis fan, vous êtes des vedettes et mérite moi aussi. D'ailleurs, je veux qu'on m'appelle Old de Lafitte. Vous êtes nos invités, on vous fera pas de mal. Bienvenue à vous avec la bande originale.
Old de Laf. Et Old de Laf sur scène le 27 septembre à Fontenay-le-Comte. Et les Folies Bergères, ce sera le 1er avril.
Et j'adore les musclés.
C'est toujours important de commencer une émission en présentant ses invités des excuses pour ceux qui viennent
de se passer.
Bravo, Old de Laf.
C'est pas la pire.
Mais il va falloir changer de mélodie un jour.
Ah bah non, c'est ça le gimmick.
Non, c'est le gimmick. On me contraint de faire la même mélodie.
Il y a une contrainte, tu vois, tu parles de contrainte tout à l'heure.
Exactement.
C'est le...
Et il sait faire que ça.
Il y a eu un featuring spécial pour vous.
Oui, là, il y a eu un featuring.
Ouais, exactement. Vous êtes donc un couple à la scène, Élodie Bouchèze et Laurent Lafitte. Vous êtes un couple de personnes riches, dans une réussite sociale, ayant une maison qu'on imagine dans le sud, dans l'Uberon. Enfin,
on a tourné dans le Gard.
Dans le Gard, ouais. Très bien. Lui est avocat, avec un cabinet... Non, j'ai dit...
Ah non, rien du tout, tout va bien.
Lui est avocat, elle est actrice...
Il est parano avec l'âge,
je te regarde.
Alors, actrice...
Mais elle bosse plus beaucoup.
Voilà, ouais, mais est-ce qu'elle bosse plus beaucoup par choix, parce qu'elle est dans le confort de ce que lui propose son mari, ou parce qu'elle n'a plus de rôle qu'on lui propose, mais elle a des projets, en tout cas, elle veut revenir au théâtre.
Oui, de toute façon, les acteurs, on ne bosse jamais par choix.
Ouais, on a compris dans le second temps.
Oui, c'est qu'on lui fait pas de proposition, donc elle attend ou elle essaie d'engager des projets, quoi.
Voilà.
On sent qu'elle a eu une carrière jeune plus flamboyante.
Voilà. Ça, c'est comme un chanteur qui fait des petites salles en disant « je veux être plus proche du public ». Je peux pas remplir plus grand, c'est tout. Je vais être plus proche. Et puis de l'autre côté, un autre couple constitué de Ramzi Bedia et Laure Calamy, couple de vos gardiens, qui sont logés sur la même propriété, et qui, selon la phrase qui arrive assez rapidement dans le film, ne travaillent que 3 mois dans l'année quand on est là, donc ils ont intérêt à être présents du matin au soir.
Pas faux.
H24.
Ah oui. Bah, ça se tient.
H24, non, parce qu'il y a
non, pas H24,
non, voilà. Il n'y a pas vraiment d'horreur,
mais
et
voilà.
Ah oui, mais 3 mois dans l'année, ça va.
Oui, mais 3 mois dans l'année, ça ne veut pas dire corvéable à souhait.
Pourquoi?
Parce que ça s'appelle le droit du travail.
Laurent, c'est un film, c'est pas un documentaire. Sur votre... Vous êtes encore dans le personnage.
Mais ça se discute, si on vous propose. Alors, vous allez travailler de 9h du mat à 18h, 5 jours par semaine pendant 10 mois, ou 12 heures par jour pendant 3 mois.
Sauf que ça sous-tend que les
week-end
autres
compris.
Mois...
Week-end compris, vous choisissez quoi?
Non, ça veut dire que c'est malhonnête. Parce
moi, je suis d'accord.
C'est pas légal. Déjà, c'est pas légal.
Non, ils travaillent 3 mois dans l'année, mais le reste du temps, c'est pas parce que vous n'occupez pas la maison que pour autant, ils ne l'entretiennent pas. Donc,
bon, écoutez, ça va bien, les prud'hommes trancheront, je vous demande de vous arrêter.
Mais c'est exactement le sujet et le débat, avec, encore une fois, si dès le début du film, en tout cas dans le premier tiers, chaque spectateur peut prendre le parti de l'un ou de l'autre en disant les patrons sont dans leur bon droit parce qu'en effet ils en foutent pas une le reste de l'année.
Oui,
ça va,
il y a un élément déclencheur qui est violent quand même, une petite ébriété de monsieur Ramzi Bedia.
Non, l'élément déclencheur c'est pas ça du tout.
Mais bien, c'est quoi?
C'est l'anniversaire de la fille du couple de gardiens. Non, c'est l'anniversaire.
Alors, écoutez,
vous êtes un vrai salaud,
pas du tout.
Vous êtes n'importe du compte du mal que vous avez fait.
Le début du conflit, non, c'est même pas le cadeau, c'est l'anniversaire de la fille des gardiens.
On peut considérer que l'anniversaire a été fait sur les heures de travail. Aussi. Voilà.
Non, on peut aussi considérer qu'on peut laisser tranquille les gens.
Ceux qui n'ont pas vu le film ne comprennent pas ce qui se passe. Laurent Lafitte a un problème avec son évier qui est bouché. Voilà. Il débarque chez les gardiens pour leur demander de déboucher l'évier avec toute la saloperie, la merde qu'il peut y avoir dedans. Voilà. Et donc il débarque au moment où, dans sa tenue endimanchée, Ramzi Bedia est en train de fêter le 20e anniversaire de sa fille. Mm-hmm. Voilà,
en lui offrant un
téléphone.
Oui. Je propose de repasser plus tard. Je propose de repasser plus tard. Elle me dit non, allez-y maintenant que vous êtes là. Ah,
Oui, ben mais parce voilà. qu'il est serviable et il est aimable.
Mais non, mais bien sûr. Mais je... bien sûr. Non, mais ce qui est intéressant, en tout cas, dans cette scène-là aussi, c'est qu'après, pour me faire pardonner, oui. j'offre un iPhone tout neuf à sa fille.
Qui lui n'est pas reconditionné, qui bah oui, humilie.
Alors que son père, oui, mais c'est ouais. ça qui est intéressant, c'est que le décalage social est tellement fort que même quand l'intention est bonne et louable, elle peut pas être reçue de manière.
Surtout que vous achetez un téléphone à 1500 balles en disant j'ai acheté une babiole. C'est-à-dire bah vous oui. humiliez encore en plus lui bah qui a acheté un téléphone reconditionné.
Et oui. ça, je trouve que ça raconte bien l'équilibre du film et sa précision.
Ce que l'on voit en tout cas, c'est que les deux familles n'ont pas le même point de vue quant aux oui. dépenses, quant au potager, quant à l'utilisation des parties communes, oui. on va dire, ni à la nuisance d'un portail qui grince. Pour certains, oui. c'est juste un portail qui grince. Pour d'autres, ça devient un bruit assourdissant oui. et insupportable.
C'est Maître et Valet, quoi. On refait la comédie traditionnelle.
Molière, complètement.
Ouais. 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 Et donc, chaque personnage... est-ce que vous êtes d'accord avec moi, Élodie, quand je dis qu'on pourrait prendre fait et cause pour chacun des points de vue? On peut être, dans un premier temps, d'accord avec les patrons, de l'autre côté, d'accord avec les employés.
Complètement. C'est vraiment la grande qualité du film. On est tout au long du film baladés... à l'endroit de tous les points de vue, en fait.
Et on voit la part diabolique que peut avoir chacun, susciter, quel que soit le rang qu'il occupe dans la classe sociale.
Exactement.
C'est pas le problème.
Et c'est vrai que, et au milieu de tout ça, tout le monde est doté d'une certaine sincérité, en fait. Les employés pensent réellement bien faire leur travail, les patrons pensent réellement bien traiter leurs employés, et il va y avoir des éléments déclencheurs et révélateurs.
Mais il y a les deux filles, en plus, qui jouent dans ce film, Noé Habita et Maya Zrouki, qui sont respectivement donc filles de votre couple et filles du couple de Ramzi et de Laure Calami, qui elles aussi voudraient sortir de leurs conditions. L'une veut être actrice comme sa maman, mais ne pas avoir le même nom que sa maman, c'est-à-dire ne pas être une fille d'eux, parce que là aussi c'est l'un des soucis. Sami Outalbali joue lui le rôle du fiancé de Noé. Il veut être avocat comme le père de Noé, c'est-à-dire comme vous, Laurent Lafitte, mais il n'est pas le fils d'eux. Et
il vient d'un milieu. Il est entre ces deux familles. Oui, il est super, ce personnage.
C'est ça.
Ah oui. De classe. Ouais.
Et c'est d'ailleurs son point de vue qui est le point de vue qui compte. On est vraiment, oui. lui, il est vraiment au milieu du conflit.
C'est vrai. Et c'est. Alors, je ne veux surtout pas révéler la fin, qui est très surprenante, mais en tout cas, c'est là, je trouve que le film. Politiquement, je dirais, prend parti, pour le coup. Sur est-ce qu'on peut s'extraire de sa classe? Est-ce que c'est possible? Là, il n'y a plus de... Là, la réponse est assez radicale.
Votre truc, vous n'avez pas spoilé, super.
Non, je n'ai pas spoilé.
C'est
un deuxième niveau de lecture.
C'est une sorte de Rastignac, en fait, ce personnage.
Oui, voilà. Justement, parce qu'il est moins ambitieux.
Il est moins ambitieux, mais il est quand même tenté. Il est quand même tenté d'appartenir à un milieu qui ne sera jamais le sien. C'est le problème du transfuge de classe, en fait.
Oui, il veut séduire. Il veut plaire autant à la fille qu'au
beau-père. Il comprend qu'il n'a pas les armes.
Non.
Et il comprend qu'il faut être armé.
Mais il a l'intelligence. Ouais. Il a le charme, il a l'intelligence.
Il le fait avec beaucoup de dignité aussi.
Oui.
C'est drôle. Ça commence comme une comédie, ça finit comme un thriller. Il y a une véritable tension parce qu'on se demande jusqu'où, dans quels excès les uns et les autres peuvent aller. Et on voit vraiment la part d'ombre, la part diabolique que chaque personnage peut avoir, sauf peut-être justement le rôle de Samy qui lui essaye de calmer tout, parce que ça monte, jusqu'à quel point et jusqu'où ça peut aller. On le voit dans la bande-annonce, donc il y a des guns qui sont sortis à un moment donné. Évidemment, là, c'est sans limite.
Des pistolets.
Et puis...
Un fusil,
c'est oui, ça. Voilà. Et puis surtout... un gâchis de très bon cru dans la piscine, c'est ma chaise. J'ai pleuré quand j'ai vu cette scène.
J'ai aucune forme d'empathie pour votre à l'écran. C'est vrai. Rien. J'ai cherché, mais j'ai pas
du vin, du gâchis.
Oui, mais voilà, mais du coup, j'ai pas d'empathie non plus.
T'as pas pleuré, toi ?
Non, pas du tout.
Ah bon.
Moi, je me trouve très humain, moi aussi.
Bah oui,
je comprends très bien.
Il sort ce film, ce classe moyenne très drôle, mais avec un véritable suspense aussi. Il sort ce mercredi au cinéma. Voici Lisa Del Moitier. Bravo.
Merci, toi aussi. Ouais. Non, c'est très très dangereux de maltraiter ses employés parce qu'après, ils peuvent se rebeller. Je dis ça, je dis rien, France Inter. Permettez que je me sers de votre film à des fins syndicales. Elodie et Laurent, mais sûrement de gratter une petite augmentation.
Vas-y.
Les temps sont durs. Je dois refaire ma salle de bain, en fait. Et elle va pas se faire
toute seule cette double vasque.
Non. Double, bravo.
J'habite dans un appart parisien, il n'y a absolument pas la place pour deux lavabos.
Ah oui, c'est vrai.
Vous savez comment on appelle la deuxième vasque à Paris ? Les chiottes. Vous savez comment on appelle les chiottes à Paris ? Les chiottes. Non, mais cette rancœur aux racines pécuniaires que vous entendez jaillir de mes entrailles, c'est celle-là même qu'on retrouve en fil conducteur du film Classe moyenne avec des pauvres qui aspirent à être riches, la base. Des riches exploitant les pauvres, la base. Laurent Lafitte en gros connard, la base. Les évidences, je vous dis. Bon, je dis ça dans le sens que la lutte des classes illustrée dans le film est malheureusement indéniable dans notre société, mais ça n'enlève pas l'originalité du film puisque le sujet est traité ici de façon non manichéenne. Puisque, eh oui, les pauvres aussi peuvent être pernicieux, peuvent être aigris. Prenez Daniel, par exemple. Bon, le jour où il sera riche, on ne pourra pas dire que l'argent l'a changé. Bon, Daniel, même au SMIC, il claque des doigts pour appeler le serveur. Ça, c'est un homme entier. Hein. Non, mais c'est rafraîchissant, une approche de la lutte des classes dans la nuance, que c'est pas paternaliste, déjà. Hein. C'est pas parce que t'as pas d'argent que t'as pas le droit à des défauts. Hein. Le comble du luxe, soyons honnêtes, ça reste d'être une grosse enflure. Enfin, il semblerait, en tout cas. Donc, c'est pas paternaliste, et puis surtout, c'est réaliste. Hein. J'avais pas vraiment attendu Classe moyenne pour savoir que les pauvres aussi pouvaient être des raclures. J'ai déjà mangé à la cantine de France Inter. Je peux vous dire que le jour où un technicien te fait un croche-pied pour avoir la dernière portion de filet de cabillaud, tu comprends que c'est pas parce qu'il gagne le salaire minimum qu'il a le cœur sur la main. Enfin, j'ai eu ma revanche, il y avait des arêtes. Tout ça pour dire que le film est drôle mais subtil, inattendu aussi. Laurent Lafitte, vous y jouez un connard déjà. Et je vais appeler ça évidence pour la déconne. La réalité, c'est que vous êtes fort aimable. Enfin, oui. Je vous connais que dans le périmètre de ce studio, mais rien à dire. Pas un mot plus haut que l'autre, pas de tag sur la table, pas de main au cul des stagiaires, même pas de vol de gourde. Merci de nous avoir laissé Camille, franchement.
Oh non !
Notre invité ont tenté de la subtiliser. Mais il n'y a pas à dire, vous jouez bien les connards. Quand même. On sent le perfectionniste de l'acteur. Hein. Peut-être un peu de méthode acting ? Quel vrai connard avez-vous suivi pendant 6 mois ? Donald Trump peut-être ? Mon ex ? Impossible, on se fait croiser, ça fait 6 mois que je le suis aussi. Vous êtes assez insupportable, mais vous avez le mérite d'être un connard franc. Voilà. Et moi, j'aime mes connards comme j'aime mes comptes en banque. À découvert. Ou aux îles Caïmans, à la rigueur. Non, c'est bien un saligo qui se cache pas, un trouduc à l'air. Pas comme votre personnage, Élodie Bouchesse. Sous ses airs d'être là, sans vraiment être là, elle vaut pas mieux expliquer à la femme qui nettoie pour elle comment nettoyer. Il y a rien qui me gêne plus que de regarder quelqu'un faire une tâche ménagère pour moi. C'est pour ça que moi, mes domestiques, je les fais travailler la nuit. C'est une question de dignité. Ça me gêne trop de regarder astiquer ma vasque alors que je suis assise sur les chiottes.
Oh, non.
Ça, en dessous, j'ai un peu l'impression qu'astiquer ma vasque, ça doit être une expression dans un univers parallèle. Mais j'ai pas le temps de chercher, il est bientôt midi et je dois aller me battre pour le dernier morceau de cabillaud.
Oh, yes, Lisa, Lisa.
Donc on trouve toujours le spectacle en ligne sur France TV, c'est Romantada sur francetv.fr.
C'est vrai qu'elle est aussi un peu au bout du rouleau, l'actrice que vous interprétez, Élodie Bouchesse. Ça vous a apporté un plaisir supplémentaire de cette espèce de mise en abîme de phrases que l'on peut dire ou entendre peut-être dans le métier, c'est-à-dire que bah, il faut marcher sur la tête des autres pour réussir.
Oui, elle est cruelle.
Voilà.
Oui,
elle est cruelle, oui.
Ce qui m'a plu.
D'être méchante, de jouer les alcooliques, de.
Ben, cette mise en abîme d'une actrice qui joue une actrice, c'était de pouvoir pousser le curseur et puis en faire un personnage, au-delà du thème du film, d'en faire un personnage, enfin, de rigoler de soi, de sa profession, et d'amener de l'autodérision. Parce que moi, ça me plaît beaucoup. Je trouve qu'en France, on n'est pas beaucoup sur l'autodérision.
C'est clair.
Vous plus ici, mais nous dans le
non,
cinéma.
Non, nous on se moque des autres. On est
on se moque pas de nous.
On a trop d'amour propre pour
mais
se moquer de nous.
Mais ça, c'est très chouette à faire.
Laurent Lafitte, c'est une sorte de huis clos dans une maison absolument dingue, mais ça reste un huis clos et une espèce de prison dorée aussi, on a l'impression, parce que même le village entier ou les commerces en tout cas se rebiffent contre ce seigneur, oui. Contre ce nanti.
Les petits commerces, hein, vous avez remarqué, quand les Parisiens en vacances, tout est petit. Il y a un petit boulanger qui fait un petit pain absolument délicieux. Il y a un petit boucher qui nous fait des petites paupiètes exquises. Donc tout est petit,
oui. Est-ce que c'est du mépris ou est-ce que c'est au contraire de l'artisanat et de la finesse et de... Je vous ai préparé un petit...
Oui, il y a ça aussi, mais il y a quand même un côté un peu... C'est une forme de condescendance passive qui est intéressante à repérer.
C'est Paris versus la province.
Bah oui,
c'est un peu ça.
Voilà, c'est ça, quand même.
Il y a il y a aussi la manière d'éduquer, la manière de transmettre, c'est-à-dire que dire à sa fille, comment juger aussi l'arrivée du beau-fils dans la maison, le tester. Oui. Aussi, lui apprendre les bonnes manières. On ne dit pas bon appétit à table, ça j'ai tellement ri. J'ai tellement ri parce qu'en plus il y a la gêne. Il dit bon appétit en étant extrêmement sincère et chaleureux.
Oui, il y
a un silence à table.
Mais c'est vrai ça.
Bah oui.
Parce que normalement le souhaite.
Parce que tout de suite ça le.
Enfin, chez des gens de la très haute quoi. On va se calmer. C'est
oui.
Bah oui.
Ouais.
Oui.
C'est abusé, mais...
La moyenne haute pour Laurent. Voilà.
Vous allez vraiment me faire passer pour... Je ne sais pas pour qui vous allez me faire passer, mais...
C'est un documentaire. C'est un documentaire.
Il se trouve que je savais qu'on ne disait pas bon appétit avant
aussi,
de faire le film.
Pour autant, je le dis.
Ni à vos souhaits.
Voilà, c'est ça. Quand quelqu'un éternue, il ne faut pas dire à vos souhaits. Mais il ne faut pas dire qu'ils sont juste.
Et quand tu passes à table, tu ne dis pas à vos souhaits non plus. Ça
va, dans les deux sens. Bon
appétit quand tu es terminé. Comment elle s'appelle, la dame des bonnes manières, là?
Nadine de Rothschild.
Voilà, ça fait partie des codes comme ça.
Du savoir-vivre, c'est tout, Nagui.
Je ne crois pas. Parce
en revanche, tu peux dire ton poulet est dégueulasse.
Oui, c'est ça. Il y a une forme de politesse, mais qui masque généralement une cruauté terrible.
Non, mais parce qu'on peut se demander, autant lui, clairement, en tant qu'avocat, est le fils d'eux, et il est dans cette espèce de lignée de consanguinité dans la réussite sociale, autant l'actrice que vous jouez, Elodie, on ne sait pas trop où elle en est, parce que ce qui est quand même clairement dit, c'est que si elle a choisi cet avocat, c'est pour son pognon. C'est pas pour autre chose, c'est d'une violence inouïe, mais c'est dit.
Moi je le dis, ouais.
C'est toi qui le dis. Il n'est pas dupe, en fait.
Mais on ne sait pas s'il plaisante. C'est toujours un peu. C'est dans un rire. C'est un peu aussi une manière de tester.
Si, c'est une scène avec Samy dans la cuisine. À votre avis, pourquoi elle est avec vous?
C'est une manière de le tester aussi, voir comment il réagit et comprendre un peu mieux ses intentions par rapport à ma fille.
Oui, mais il a peut-être aussi un doute. Votre personnage peut avoir un doute.
Oui, tout à fait.
On ne sait jamais vraiment pourquoi les gens sont avec nous durablement.
Mais il a un doute justement parce qu'il est face à quelqu'un qui est en train de s'extraire de son milieu. C'est ça qu'il fait douter.
Et quelqu'un qui réussit mieux que lui scolairement, en plus, c'est ça qui est drôle.
Oui, en plus, c'est vrai que. Les majeurs de sa promo.
Voilà. Ouais.
Et donc il le teste, il peut en être un tout petit peu jaloux, comme peut être un papa jaloux de celui qui est aimé par sa fille aussi.
Il y a un petit côté combat de coq quand même, bien sûr. Il est aussi questionné dans. Il y a aussi un rapport d'âge, dans sa maturité, dans sa virilité, ça le fragilise à plein d'endroits différents.
Et il y a plein d'histoires et de sous-histoires et de sous-intrigues parce que. Que se passe-t-il lorsque deux enfants de classe sociale différente, l'un qui emploie l'autre, tombent amoureux ou amoureuses l'un de l'autre? Là aussi, la question se pose, tout ça avec du soleil, tout ça dans ce huis clos, tout ça avec cette espèce de légèreté, tout ça avec une musique qui est vraiment à mi-chemin entre le suspense et la comédie. Il y a un petit côté musique Desperate Housewives. On se demande si ce qui va se passer. Il peut y avoir des drames qui peuvent arriver. Est-ce que le plombier va arriver? Et justement, nous allons évoquer la lutte.
Il y a des musiques de plombier.
Parce que bah, c'est le plombier dans le Desperate Housewives. Je sais plus comment il s'appelle.
Mike et Gino.
Voilà. Il fait craquer.
J'ai jamais regardé.
Ah bah voilà. T'as pas la
on part souvent à White Lotus aussi un peu.
Ah oui, ouais.
C'est vrai, super série, sauf la troisième saison. La lutte des classes version 2025, Serge Guérin sera notre invité, on en parlera dans quelques instants. Mais d'abord, voici Camille Lavard.
Bonjour tout le monde. Les amis, je voudrais vous parler d'une fête un peu particulière à laquelle je suis allée récemment. Alors non, ce n'était pas le brunch littéraire annuel de Leïla à la recherche du pain perdu. Non, c'était l'anniversaire d'un ami d'amis avec des convives au comportement, ma foi, assez étrange. Je vous explique, j'arrive à la soirée et dès que je rentre dans l'appartement, je me retrouve au milieu d'un groupe de gens surexcités qui n'arrêtent pas de renifler, qui parlent très vite et transpirent de manière très visible et très olfactive.
Joker.
Du coup, je me dis, bon, ça se trouve, ils viennent de passer les démons de minuit. Je présente à Fabien, l'hôte de la soirée, celui dont on fête l'anniversaire, et en lui faisant la bise, je réalise qu'il a un peu de sucre glace dans la moustache. Et là, il me fait « Ah, désolé, mais si t'en veux, il en reste un peu dans la cuisine. » Je lui fais « Quoi ? Bah alors, il est 22h et vous avez déjà fait le gâteau ?» Il me fait « Ah ah, Camille, comédienne, humoriste !» Je fais « Quoi ?» Il me fait « Ah, super !» et s'en va en reniflant. Du coup, je continue mon trajet vers le buffet sur lequel il n'y avait plus rien à manger, mais qui apparemment était super bon puisque tout le monde se frottait encore les gencives. Et puis, après les démons de minuit, il commence à mettre de l'électro, mais pas de l'électro. électro, genre story Instagram 2018, petit biscuit, sunset lover. Non, de la minimale. Vous connaissez la minimale? En fait, le nom fait à la fois référence au caractère dépouillé des arrangements électroniques et à la taille de ton âme après trois chansons. Bref, très vite, je vais me chercher un verre de blanc, histoire de me donner une contenance, quand j'aperçois alors un mec qui me regarde. Enfin, je crois qu'il me regarde. Mais il a les pupilles tellement dilatées, je crois qu'il regarde tout le monde, en fait. Je vous jure, le gars, il avait des boules noires au milieu du visage, quoi. S'il avait joué à Motus, il aurait perdu deux fois. Là, il vient me voir et me demande si j'ai une carte de crédit. Je lui dis, bah écoute, non, j'ai déjà pas donné pour le cadeau commun de Fabien, c'est pas pour te la filer à toi, quoi. Il me fait, ah, Camille, comédienne, humoriste. Je me retourne et là, changement d'ambiance, je me retrouve nez à nez avec un mec, mais magnifique. Petits yeux noisettes, petits cheveux ondulés, petite barbe de trois jours, yeux rouges, nez qui goûte, Laurent Lafitte avec une allergie au pollen. Je décide de me lancer, je lui fais, ça va? Il me répond, moi? Bah attends, ça va super. Hey, Fabien, il fait les meilleurs anniversaires. Tu connais Fabien? Ouais, c'est son anniversaire. Ouais, c'est vraiment un frérot, le gars. Putain, c'est un frérot. Ouais, en fait, ça a été le premier investisseur sur mon projet, mon dernier projet. Je sais pas si je t'en ai parlé. En fait, c'est une marketplace digitale qui te permet d'acheter des cours de paddle en bitcoin. En fait, je crois que reprendre l'entrepreneuriat, c'est vraiment de ça dont j'avais besoin après mon burn-out, tu vois. En fait, ouais, j'ai fait un burn-out après mon projet de lancement de la première plateforme de méditation guidée pour chiens HPI. Truc de ouf. Et en fait, on avait lancé ça avec Fabien, mon pote, là. Bah, son anniversaire, là. Oh putain, c'est mon frérot, Fabien, putain. C'est mon frérot, tu connais un peu? Moi, c'est mon frère. On a lancé des applis ensemble, c'est un frérot. Et toi, tu fais quoi? Et là, du coup, je comprends dans quel genre de soirée je suis tombée. Tout s'éclaire. Et alors, on parle souvent des dangers de la drogue type cocaïne. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est que le vrai danger d'en consommer, c'est d'en perdre absolument tout son sex appeal. Déjà, un mec à jeun qui n'a pas la curiosité de l'autre, ne pose aucune question et ne parle que de lui, c'est un danger public, d'accord? Ça peut provoquer une perte immédiate de désir chez la personne en face. C'est très très grave. Mais alors si en plus il est sous coke, alors là, ça peut être sans appel. Alors la prochaine fois, j'éviterai d'aller à des fêtes d'amis. J'irai uniquement à celles des miens. Donc, hâte d'aller à ta prochaine soirée littéraire, Old Laf. Le rouge et le noir, mais surtout le rouge.
Camille là-bas.
Oui.
À l'écran, French Lover, c'est sur Netflix, Mark Wahlberg.
On en parlera la semaine prochaine.
Ouais. Ouais.
Sur Prime Video.
Fricote avec Omar Sy.
Rien sur Disney+, ouais. Rien sur Canal.
Mark Wahlberg, j'adore Mark Wahlberg avec Mr. V.
Exactement.
Mamma.
Tiens, Disney+, qui est boycotté en ce moment aux États-Unis, je ne sais pas si vous avez suivi cette affaire, parce que Disney a viré Jimmy Kimmel, le late show de Jimmy Kimmel a été annulé suite à une blague faite, enfin il y en a eu des tonnes des blagues faites sur Trump, mais on sent vraiment qu'il y a un ordre de la présidence de la République des États-Unis pour virer Jimmy Kimmel. Et ils ont perdu 4 milliards de valeur à la bourse Disney à cause des désabonnements et du boycott depuis vendredi dernier.
C'est une bonne nouvelle parce qu'ils l'ont viré pour un deal à 2 milliards. Parce qu'ils ont besoin des autorisations fédérales, je crois, pour une histoire de fusion, je sais pas quoi. Donc c'est bien si ça leur fait.
Non, l'autre animateur. Ouais, c'est.
Ah, c'est l'autre, ça? C'était pas Disney, c'est pas Disney, ça appartient pas à Disney?
Non, non,
c'est... Vous êtes sûr?
Sûr.
En tout cas, il se fait virer
pour Paramount. C'était le deal Paramount. C'est le.
Pardon, c'est sur Kirk.
C'est Kirk.
L'influenceur.
Oui, c'est sur Kirk.
Sur l'ultra.
Alors, la vanne.
J'ai déjà manifesté devant chez Disney.
La vanne était entre Trump et Charlie Kirk qui a été assassiné. Ça, c'était l'objet de la vanne de Jimmy Kimmel. Mais il y a deux humoristes présentant des late shows qui ont été virés. L'un, suite à un deal Paramount, et c'est Stephen...
Colbert,
c'est ça. Et ça, c'était il y a 2-3 semaines. Mais Jimmy Kimmel, c'était la semaine dernière.
Oui.
Et, en une semaine...
Les meilleurs.
Il y a Jimmy Fallon qui a fait un formidable sketch en disant « Je vais continuer d'être libre. » Et il a fait tout un sketch en étant en sous-boycott. Mais la liberté d'expression, la liberté d'humeur et d'humour de ces acteurs, ce sont des comédiens en plus de Late Show, et surtout de dépendre de Disney. C'est-à-dire, comment vous, acteurs, vous réagiriez si là, aujourd'hui, Disney vous contacte en disant « je vous propose un contrat, je vous propose de faire une série ». Est-ce que vous posez la question sur la liberté d'expression qui a été entachée par cette grande société, ou est-ce que vous vous dites « c'est un rôle, c'est un personnage, je suis obligé d'y aller ». C'est super délicat pour vous de savoir d'où vient la production et d'où vient le financement des films dans lesquels vous jouez, non ?
Délicat, non, mais...
C'est délicat, mais moi je me positionnerai.
En termes d'éthique.
J'irai pas dans ces endroits-là, c'est clair. C'est très clair pour moi.
Le silence de Laurent en dit long.
Je blague.
Il
est dans son rôle.
Elle est dans son rôle, c'est vraiment le chien. Alors quelle est l'élégance même, voyez.
Mais non, mais c'est très con, c'est une question compliquée. Ouais.
C'est une question
parce
compliquée.
Parce que c'est la question de l'engagement, de jusqu'où on accepte les compromis. De... Non, c'est une vraie question. C'est vrai qu'il y a des moments où il faut trancher. Surtout là, c'est des moments, dans un moment vraiment charnière, quoi.
Sur la démocratie, la liberté d'expression et la montée des populismes, et surtout la manière dont les manias, la presse et l'argent financent cette montée de populisme aussi. Mais il y a une clause de conscience chez les journalistes qui peuvent dire je quitte telle ou telle société parce qu'elle est détenue par un mania d'extrême droite et je ne veux pas cautionner ce genre de discours. Mais est-ce qu'il y a une clause de conscience chez les actrices et les acteurs?
Une clause?
Oui, de dire moi je travaille pas pour quelqu'un qui.
Ah bah je pense à ça, c'est des décisions individuelles, et puis il y a plein de manières aussi d'appréhender la chose, parce que nous quand on fait un film on travaille surtout avec un metteur en scène, on se met à la disposition d'une vision artistique,
sans forcément savoir qui coproduit derrière.
Déjà on sait pas toujours. Oui. Bon, les financements importants on sait d'où ils viennent, mais c'est participer à un film, c'est une démarche artistique au service d'un metteur en scène, et on participe pas à un contenu éditorial. Donc c'est quand même. Mais il n'empêche que. Oui, je pense que ça va devenir en tout cas de plus en plus important de se dire, je sais qu'en faisant ce film, je participe à une boucle de financement qui est détenue par telle ou telle personne.
Dont le point de départ d'ailleurs, vous avez raison, est un problème aussi d'argent, de contrat et de pression de la politique sur cet argent et sur ce contrat. Toujours est-il que concrètement, en tout cas, l'appel au boycott de tout ce qui concerne Disney, que ce soit les parcs d'attractions ou les abonnements, a pour incidence que l'action est tombée de 4 milliards de dollars vendredi soir, et qu'il y a près d'un million de personnes qui se sont désabonnées de
toutes les plateformes. Ça veut dire que les gens peuvent se mobiliser, et quand ils le font pas, c'est donc d'autant plus inquiétant.
Aussi.
Non, mais la question pourrait se poser en France aussi. Il y a beaucoup de spectacles ou de films qui sont produits par Canal, et le groupe Canal, il est tenu par quelqu'un qui n'est pas parfait. Tu vois, donc, si on devait se positionner, il y a déjà la moitié des films français qui est plus de la moitié.
Plus de la moitié.
À suivre donc la lutte des classes en 2025. Serge Guérin est notre invité, mais parlons de la musique dans vos vies. Élodie Bouchez, vous écoutiez dans les années 95-96. Vous étiez une ado en colère ou pas?
Non, pas du tout.
Pas du tout?
Non, j'étais bien.
Pas grunge?
Grunge est bien.
Grunge est bien.
Bien grunge.
Ça n'empêche pas.
Oh, dans ces années-là, Élodie, on vous retrouve dans les Roseaux Sauvages de Téchiné, qui vous vaut le César du meilleur espoir féminin. Vous dites que vous parlez souvent de Téchiné dans vos choix d'actrice et dans cette rencontre que ça a suscité dans votre carrière. Ça a représenté quoi, André Téchiné, dans votre itinéraire?
Ça a représenté la rencontre avec ce cinéma-là d'auteurs que je connaissais pas. Venant d'où je venais, ayant été élevée avec les films à la télé ou au cinéma dans les centres commerciaux, c'était vraiment très loin de moi. Donc j'ai fait.
C'était d'ailleurs, un film de télé avant d'être un film au
tout
cinéma.
Tout à fait, c'était un film pour Arte. Et c'est vrai que. En le faisant, j'ai découvert ce que c'était que de travailler avec un auteur puissant, avec cette exigence, et puis voilà.
C'était peut-être pas mal d'aller sur le tournage sans trop savoir qui était Téchiné, finalement. Ça évite de...
Oui, c'est vrai que les premiers films que j'ai faits, j'y suis allée avec beaucoup de naïveté, comme ça. Et c'est marrant de se refaire... Plus tard, même ma rencontre avec Gainsbourg, elle a été faite. Enfin, je connaissais évidemment sa musique, mais j'étais pas impressionnée. Et c'est drôle plus tard de retirer le fil comme ça.
Dans cette même période, Laurent Lafitte, vous écoutiez.
Ça passe. Un jour, ce mal disparaîtra. Ça passe. Mon cœur peu à peu oubliera la garce.
Alors, c'est passé.
qui m'a joué.
Ça passe toujours.
Avec le temps.
Avec volonté.
Avec le temps, va.
Tout, un petit peu.
Voilà. Tout s'en va.
C'est dans la tête, vous savez.
Moi, je pensais pas, moi, je pensais pas, ouais.
Et là, on enchaîne.
Vous passez, pardon. On retrouve au conservatoire.
Ça peut donner tellement de sens à cette chanson.
Ah bon?
Ça passe justement pour le conservatoire.
Oui, ça passe.
Que vous bûchez à l'époque.
C'est passé crème.
Passé comme ça, tout droit. Qu'est-ce que vous avez dit?
Ça dépend.
C'est fini, oui.
C'est lamentable.
Je sais. Qu'est-ce que vous, vous découvrez vraiment au conservatoire?
Eh bien, écoutez.
Professionnellement.
Justement. Ah, pardon. Le conservatoire, je découvre tout un théâtre que je connais pas, un répertoire aussi que je connais pas bien. Parce que moi, un peu comme Élodie, j'ai grandi avec une culture populaire, les films à la télévision, et j'allais pas au théâtre, donc j'ai passé le concours du conservatoire, j'étais déjà comédien en fait, j'avais 23 ans,
ce qui est bien important, c'est que vous n'avez pas ce mépris de la culture populaire, justement, vous êtes baigné dedans. Non, mais c'est important, puisqu'on est dans la lutte des classes aussi, et dans aussi la lutte de la culture aussi.
Bien sûr,
ce qui est populaire.
Et puis y avoir beaucoup de mépris.
Dans un sens comme dans l'autre, en fait.
Mais complètement, moi j'ai beaucoup souffert. Il n'y a pas que le mépris par rapport à l'argent, il y a aussi un mépris culturel que je vais ressentir très fortement. J'ai découvert des auteurs, j'ai beaucoup lu, j'ai découvert toute une manière d'aborder le théâtre, qu'on dirait plutôt le théâtre public, on va dire. J'ai découvert tout ça, quoi.
Et vous voyez offrir un billet de 500 francs, c'est vrai, par votre père.
Mon père m'a offert un billet de 500 francs quand j'ai été reçu au conservatoire, c'est vrai.
Vous l'avez gardé?
Non, je pense que j'en avais besoin.
Dépensé. Ça a duré 24 heures.
Oui, c'est vrai. Je pense que j'ai dû aller faire la queue rue des archives à France Télécom pour aller payer ma facture.
En 2004, Élodie, vous écoutiez... Voilà l'exemple même d'un titre qui, au moment de sa sortie, était considéré comme populaire et comme de la soupe, et est devenu de plus en plus hype, de plus en plus chic, avec des covers qui ont été faites par des artistes qui leur ont donné ce crédit supplémentaire. Ça reste une bonne chanson, quels que soient les arrangements.
Ouais.
Britney Spears, ça correspond à quelle période de votre vie? Vous écoutez ça pour danser, pour le plaisir? Ou pour les paroles aussi?
Je crois, comme vous le dites, c'est ce morceau-là qui est quand même un grand morceau. Et qui dure dans le temps, qui vieillit pas, qui nous évoque tout de suite plein de choses. Donc non, elle est forte. Elle a été bien écrabouillée, mais...
Exactement.
Ouais. Et on vous retrouve dans le costume d'une cowgirl avec une chevelure rousse bouclée, dans de la comédie pure, c'est Brice de Nice.
Ah ouais, j'ai oublié ça.
Oui, c'est la proposition de James Hutt, qui m'imagine dans un monde de cinéma qui n'était pas encore le mien, et qui me donne à lire cette histoire qui, selon moi, dépasse un peu la limite autorisée, qui est sur la crête, qui manque toujours de tomber du côté de ce qu'on pourrait appeler le mauvais goût. Mais moi, c'est l'humour qui m'intéresse et qui me plaît aussi.
Laurent Lafitte, en 2004-2005, vous écoutiez... Et Lafitte Gérald.
Ah, ça, c'est le live où elle a un trou de mémoire, non? C'est pas celui-là? Il y a un live où elle a un trou de mémoire dans McDonald's.
Et au cinéma, pas de trou de mémoire pour Laurent Lafitte.
On vous retrouve dans le rôle de sa vie de François Favra. Pas de trou de mémoire, mais une difficulté à reproduire une scène. Vous l'avez raconté dans une interview, c'est hyper intéressant. Vous avez passé des essais pour ce film, et vous vous retrouvez donc engagé pour ce film à refaire cette même scène.
Oui.
Et là, c'est compliqué.
Bah oui, parce que c'était déjà fait, en fait. Elle était grillée, la scène. Donc j'ai essayé de refaire ce que j'avais fait aux essais, parce que je savais que ça n'avait plus, puisque j'avais été engagé. Mais
émotionnellement, vous voulez dire, vous avez déjà eu cette émotion lors de la scène, et donc c'était difficile à reproduire. C'est
c'est ce qui s'est passé. Ouais. Mais je pense que pour les essais, il faut écrire des scènes qui ressemblent un peu aux situations qui seront après dans le film, mais... Il y en a qui font ça d'ailleurs.
Mais quelle est la différence entre faire plusieurs fois sur le plateau une même scène? Parce qu'on pourrait dire, je l'ai grillé dès la première fois.
Mais là... ça peut arriver. Je pense que ça peut arriver. On a une première prise un peu magique. Et puis après, en fait, je pense qu'il faut réussir vraiment à oublier ce qu'on vient de faire, à la rejouer comme si on n'avait jamais joué et à ne pas avoir peur de prendre des directions très, 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 très différentes. Si on essaie de reproduire les choses, ça.
C'est l'un des exercices dans le film, dans Classe Moyenne, justement, où la jeune actrice jouée par Noé doit passer un casting et elle doit pleurer. Elle ne sait pas pleurer. Elle demande des conseils pour comment pleurer.
Mais elle n'a jamais souffert.
Ça donne un cours. Non, mais ça donne un cours d'acting ou d'acteur studio, en tout cas, qui est très intéressant. Alors, évidemment, c'est un texte que vous interprétez, mais vous êtes d'accord avec les conseils que vous lui donnez ou pas ?
C'est une école.
D'aller chercher loin en soi des sentiments, d'entendre des musiques ou d'évoquer des images qui vous amènent mécaniquement à
faire revenir des larmes. Oui, c'est une école. Je suis passée un peu par cet enseignement-là. Mais je ne pense pas que ça... Enfin, le moment où on doit pleurer sur un plateau, il est très délicat parce qu'il est très concentré à un moment T. C'est-à-dire que tout le monde s'affaire, on ne sait jamais quand est-ce qu'on va entrer sur scène finalement, quand sera le moment de la prise.
On peut ne pas le maîtriser, pardon.
Voilà, parce qu'il doit se maîtriser aussi dans le temps. Alors, toute cette concentration ou cette mémoire sensorielle, comme ça s'appelle cette méthode, on doit savoir la délivrer au moment où tout le monde est prêt, pas au moment où vous êtes prêt, forcément. Ouais. Donc c'est assez délicat.
En tout cas, c'est un moment clé dans le film, sans rien dévoiler encore une fois. C'est un moment clé parce qu'on peut aussi se demander à quel point chacun joue ou pas, fin ou pas, l'émotion, l'hypersensibilité ou au contraire la violence. Et puis ça sera un moment clé dans le jeu de Noé Habitat, du personnage.
Et de Samy aussi.
Et de Samy.
Parce que lui, il réagit.
Serge Guérin, vous nous avez rejoint. Bonjour, monsieur.
Bonjour.
Vous êtes sociologue, auteur de nombreux ouvrages, dont le dernier « Et si les vieux aussi sauvaient la planète ?»
Ce serait pas mal, d'ailleurs.
Aux éditions Michalon. La lutte des classes, en 2025, elle existe, évidemment, elle a toujours existé depuis que j'imagine que l'argent est sur la terre, non ?
Ah, il y a un type qui s'appelait Marx qui disait que c'était même le moteur de l'histoire. Alors, après, on peut discuter. Mais oui, elle reste très, très prégnante. Et en même temps, elle a beaucoup évolué.
Comme justement l'écart entre riches et pauvres, en tout cas en France, n'a jamais été aussi important, j'imagine que c'est identique dans le reste de la planète.
Alors,
c'est un constat mondial ?
Non. C'est-à-dire que depuis les années 90, globalement, l'écart, il est à peu près stable en France. On a des mécanismes de redistribution qui sont assez performants.
L'écart est stable en France ?
Oui.
Ah, okay, parce que moi, tous les jours...
Je sais bien qu'on dit souvent, y compris sur France Inter, mais les réalités sont un peu plus fines que ça. Et par exemple, si on prend l'Observatoire de l'inégalité, alors ça dépend qui aussi on prend comme...
J'ai pas réagi, t'as vu. Hein,
Oh, il est tranquille.
Tranquille.
Y compris. En même temps, c'est pour ça qu'on vous fait venir.
Exactement. Continue. Et même là-dessus, en plus, ça dépend qu'est-ce qu'on prend comme base et autres. Globalement, si on prend vraiment les gens qui sont en grande difficulté, au-dessous de 1000 euros par mois, c'est 8% de la population. Et c'est resté relativement stable. Après, il y a plein de mécanismes qui permettent de... Mais n'empêche que la lutte des classes, elle est très présente. Et en même temps, c'est ça qui est intéressant, il y a aussi d'autres mécanismes qui arrivent. La question identitaire, par exemple, culturelle, religieuse, qui prend parfois bien plus de place que la lutte des classes. Et puis, il y a un fait en France, c'est que les gens sont de plus en plus contre la redistribution. On a perdu à peu près 10 points. C'était à peu près 48% de la population qui pensait que c'était bien de redistribuer. Aujourd'hui, on est plutôt à 37%, y compris d'ailleurs les jeunes. Donc il y a aussi un refus d'une partie de la population de dire « ça va quoi, on est responsable, chacun doit s'occuper, il y a trop de chômeurs, ils ne travaillent pas assez, ainsi de suite ». Donc il y a beaucoup de choses aussi qui bougent, y compris chez des gens.
C'est fou parce que c'est pas le discours que j'ai le sentiment d'entendre...
Si, c'est la droitisation de la société en fait.
Alors est-ce que c'est la droitisation, en tout cas, y compris des gens d'ailleurs qui eux-mêmes sont en difficulté et qui trouvent que celui d'à côté... Vous savez, c'est aussi René Girard, la violence mimétique. Oui. Je regarde les autres, je dis, oh, quand même, je voudrais bien ce qu'ils ont. Alors, c'est le gros problème de la richesse. C'est qu'avant, on n'était pas au courant des gens riches. Aujourd'hui, on les voit partout. Donc, du coup, ça... Alors, parfois, il y a des gens qui font la queue. Je voyais hier, il fait deux jours, ils font la queue pour aller voir une influenceuse. Et les gens passent des heures et des heures. Alors, c'est des jeunes. Ils n'arrivent pas à arriver à l'heure en cours, mais alors ils arrivent 4 heures en avance pour aller voir une influenceuse. C'est quand même assez fascinant aussi. Ouais.
Est-ce que la lutte des classes, pour en revenir à notre pays, se voit aussi, transpire aussi avec la lutte Paris-Province? Tout à l'heure, on évoquait le fait que les Parisiens avaient un petit boulanger, un petit boucher, un petit resto, minimiser tout ce qui pouvait se passer en dehors du périphérique, avec un mépris pour ce qui était provincial. C'est aussi la différence de niveau de vie est aussi géographique.
Ouais, le pouvoir d'achat.
Vous avez le mot très fort, vous avez utilisé plusieurs fois, c'est mépris. Il y a plein de gens qui se sentent complètement méprisés. On leur fait la leçon, par exemple, sur l'écologie. Ils disent, mais vous êtes bien gentil, mais on me dit, je dois pas prendre ma bagnole, mais j'en ai besoin. Alors, elle a 15 ans, elle pollue, je sais pas quoi, mais si je l'ai pas, je fais comment? Donc, il y a quelque chose de très, très violent, ce qui fait qu'en effet, le Paris-Province ou le grande ville, grande métropole et périphérie. Et ça, ça monte. Et c'est, y compris avec des gens qui ont parfois des revenus condamnables, mais qui se sentent complètement méprisés par les Parisiens.
Et la lutte des classes est un ressort politique aussi, est un déclencheur, détonateur pour obtenir des voix.
Ouais, ça peut être. Mais regardez, par exemple, ce qu'on a appelé la gauche, qui longtemps était centrée là-dessus.
Ce qu'on a appelé la gauche.
Oui.
On l'appelle
plus. Que je crois que vous l'appelez encore la gauche, pas moi. mais ce qu'on a appelé la gauche était très centré sur cette question-là. Et d'ailleurs, on gagnait la dignité par le travail. Il fallait permettre aux gens de gagner la dignité par l'école. Tout ça, ça marche quand même beaucoup moins bien. Aujourd'hui, bon, alors c'est, je vais pas revenir,
mais parce que la dignité est difficile à gagner par le travail, puisqu'il y a des gens qui travaillent et qui n'arrivent pas à boucler leur fin de mois. C'est aussi un constat.
Est-ce qu'ils font vraiment des efforts?
On a vendu aux gens une idée, c'est que vous travaillez, vous levez tous les matins pour aller travailler et vous allez pouvoir, d'une certaine façon, pourvoir aux moyens de votre famille. C'est faux.
Alors, en partie, c'est vrai, en partie, c'est faux. La notion de la méritocratie, je l'ai entendu, qui est très, très puissant
qui est
en
débile.
France, mais un peu partout dans tout le monde occidental. Par l'école, par exemple, je vais progresser. Aujourd'hui, l'école, elle fait progresser ceux qui étaient déjà tout en haut. Et elle aide beaucoup moins les autres. Et donc, ceux qui sont tout en haut, y compris quand ils votent bien à gauche, sont les premiers à surtout ne pas vouloir que l'école change. Et du coup, il y a plein de gens qui n'arrivent pas par rapport à ça. Donc, il y a une vraie difficulté. Et cette notion de mépris, elle est hyper forte. Les gens le ressentent. Et parfois, en effet,
comment
je travaille et ça ne me permet pas d'en vivre suffisamment.
Voilà, et comment se sortir de sa condition?
Comment s'en sortir? Très compliqué, parce que, regardez, on est le pays qui redistribue le plus. Et pourtant, ça suffit pas à certains endroits. On est aussi un pays qui est pas le pays qui travaille le plus. Donc on a aussi cette problématique-là. Et on a aussi des gens qui n'arrivent pas à rentrer dans l'emploi. On a des gens qui n'arrivent pas à y rester. On a des gens qu'on met dehors dès 50 ans. On a des gens qui ont du mal à rentrer. Donc il y a tout ça. On a aussi raconté aux gens, vous allez faire des études, ça va être super. J'aurais pas trop le dire, je suis prof. Mais n'empêche que, il y a 80% d'une classe d'âge qui a le bac. Elle ne peut pas espérer la même chose du bac que quand il y en avait 5 ou 10%. Donc il y a plein de choses qui, dans les imaginaires, ne fonctionnent plus. Et donc c'est hyper difficile. Et comment on permet à des gens, y compris d'ailleurs dans des endroits où il y a peu d'équipement, par exemple. Parce que rentrer au collège dans une grande ville et rentrer au collège quand il faut faire une heure de quart, c'est déjà plus du tout la même chose. Donc il y a plein de choses comme ça qui nous distinguent et qui créent de la tension.
Et sur l'écologie aussi, si les vieux aussi sauvaient la planète, on serait plus nombreux. Aux éditions Michalon, merci Serge Guérin d'être venu. Voici Rebecca Balestra.
Eh oui, c'est moi, la Balestra. Je remplace votre mignonnette, là, comment s'appelle-t-elle?
Emma.
La Miss Beaujean, celle-là. Ah, elle est bien trop jeune et talentueuse. Mais j'ai fait jouer mes contacts, la brigade des mineurs est sur le coup, mon tueur à gage aussi. Si je suis là, c'est parce que Nagui a insisté comme un maboule pour m'avoir.
Ouais.
Eh bien oui, tout comme Robert Redford, il m'a fait une proposition indécente.
Oh non.
Indécente parce que 4-0, c'est pas assez, Nagui. Quand je relis mon contrat, je suis pas demi-mour, je suis demi-molle. Comme Morin hier soir.
Oh non.
J'y vais. Il est où mon feu? Tu crois que ma clope, elle va s'allumer toute seule? La Balestra, c'est comme Sharon Stone dans Instinct Basique. Elle fume si elle en a envie. Et vous allez voir si j'écarte les guibolles. Moi non plus, je porte pas de panty.
Oh non.
Et pas besoin de se cacher les yeux, Nagui. J'ai pas une grande touffe velue comme ces autres mégères de la bande originale qui connaissent pas les bandes de cire. Avec elle, pas besoin de feutrer le studio. Il y a une meilleure acoustique qu'à la Philharmonie de Paris avec la moquette sous tous les bras. La régie, enlevez-moi ce bonnet de mousse autour du micro de Leïla. Elle a une moustache de 6 jours qui fait très bien l'affaire. Vous, vous autres à France Intermittence, mais vous êtes poilus comme des migales, vous avez des chauves-souris sous les bras. Même si un jour vous aviez envie de vous tailler le sous-bois, on vous laisserait plus ces zones protégées. Lisa a essayé de se raser la faune, Greenpeace a rappliqué pour se cadenasser à ses poils de brousse pour sauver ses borbacs. Il y a plus de poilus qu'à Verdun avec vos barbelés sur les jambes, c'est le musée de la guerre ici. Et je vous préviens, la balestrade préfère sentir l'odeur du gaz moutarde que les touffes de gauchos de Radio France. Boum. Moi, mon jardin intime, je l'entretiens. Pas comme vos vieilles friches qu'on dirait des bosquets du bois de Boulogne où on retrouve une vieille capote de l'avant-veille. La balestra, elle a le buisson bien taillé, à la française. C'est André le nôtre qui me fait ma peau. Il me cisaille le buis en forme de sphère, la chatte de la balestra, c'est Versailles. Et comme vous pouvez l'admirer, j'ai la pelouse fraîchement coupée de ce matin. Merde, attendez, il me reste une bande. Allez, je l'arrache. Vous allez voir les lopettes. Plus on s'épile, moins c'est douloureux. Ah, oh, putain, sale merde, la pluie, ça fait mal. Ah bah tiens, Nagui, toi qui étais un fan absolu. Oh, raté. Sauf qu'aujourd'hui, je sais pas ce que le nôtre, il a foutu, il a foiré ma coupe. Ma boule ressemble à rien, on dirait que j'ai la gueule de Daniel entre les cuisses. Ah bah non, c'est vraiment Daniel. Retourne à ta place, morin, je suis pas d'humeur. Tu m'arroseras le bourgeon plus tard. Moi, je suis pas comme votre Emma Beaujean avec ses cystites et son tuyau d'arrosage trop court. La balestra, elle en a un gros, ma fontaine, c'est 90 jets qui monte à 12 mètres. Avec moi, on traverse l'Atlantique, c'est plus Versailles, c'est le Bellagio Las Vegas. Que dis-je, Versailles, Vegas? La balestra, c'est le jet d'eau de Genève. Voilà, j'arrose tout le monde, au contraire de Stradon Nagui. C'est bon, JB, plus besoin de mon feu, j'ai fumé toute la bande. Allez, droite de clope, à l'année prochaine.
Yeah, elle m'a épuisé.
Elle m'avait pas manqué, moi.
Merci quand même. Alors Rebecca sera Jacqueline dès le 13 novembre, c'est en Suisse romande qu'elle se produit, et Super Plan, c'est sur Canal+.
Question. Tanguy Pastureau, de quoi vas-tu nous parler?
De l'intimité des stars, elles n'en ont pas, alors surtout ne soyez pas célèbres, le moins possible.
Classe moyenne, l'excellent nouveau film sortira ce mercredi, Anthony Cordier le réalise, Laurent Lafitte et Elodie Bouchasse sont nos invités jusqu'à midi et demi. Avec Lisa Delmoitier, Camille Avab, Rebecca Balestra, Tanguy Pastureau, Delaf, Daniel Morin, Elodie Bouchèze et Laurent Lafitte.
France Inter, la bande originale, Leïla Kaddour et Nagui.
Ah, on n'a plus à dire de la comédie française.
Non, en effet.
Ah, ça nous arrange pour la première. Ah, c'était long chaque fois. C'était long. Ce film passe à une vitesse, elle, stratosphérique, classe moyenne, totalement dans l'air du temps. C'est ce qu'on se disait tout à l'heure et en parlant aussi avec Serge Guérin qui était notre invité, c'est-à-dire vouloir se sortir de sa condition. Et finalement, tous les personnages, quelle que soit la classe dans laquelle ils sont, que ce soit les riches ou les moins riches, les patrons ou les employés, les ados ou les adultes, finalement, aucun n'est vraiment bien à la place où il est, non ?
Oui, c'est vrai. Et puis, il y a aussi du compromis, il y a aussi de la malhonnêteté, parce que le deal de départ, de toute façon, il est un peu pourri, parce que nous, on les a payés au black. Parce que ça
le
les a...
le personnage que vous jouez, Laurent, revenez au personnage, parce que vous êtes beaucoup trop concerné par le personnage.
C'est vrai, mais c'est comme ça que je joue.
Oui, il y a un arrangement.
Oui, il y a un arrangement dès le départ.
Qui arrange les deux. C'est-à-dire, oui, l'un ne paye pas les charges, voilà, et l'autre abuse du système d'allocation.
Voilà, donc à partir du moment où on commence à gruger ce qui fait un peu société, ça pose problème.
Non, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a ce côté payé au black, qui on ne sait pas trop d'ailleurs s'arrange qui de payer
les deux.
Au
black. Oui, non, mais c'est ce qui reste en suspens dans le film. Et on ne sait pas d'ailleurs qui, une fois que la situation sera dénoncée, subira le plus de préjudice. Parce que la question est posée par le personnage de Sami Outalbali, c'est de dire oui, mais vous avez grugé le RSA, donc vous aussi, vous aurez des arriérés à payer. Alors qu'ils ont le sentiment, en dénonçant les patrons, que... Mmh. tout est de...
Oui, bien sûr, c'est ça le levier de négociation, en fait.
Et puis, le rapport, parce que l'épouse que vous jouez, Élodie Bouchèze, elle est un tout petit peu tiraillée entre peut-être le confort dans lequel elle vit et la volonté aussi d'abord d'éduquer sa fille, d'accueillir, c'est la plus généreuse peut-être, avec son gendre.
Futur gendre.
Ouais,
futur gendre, ouais, c'est ça. C'est elle est...
Bah, comme c'est une artiste.
Plutôt généreuse.
Oui. C'est une artiste, c'est une actrice. Il y a un fond comme ça, un peu démagogique.
Elle est un peu plus altruiste, à mon avis.
Voilà, donc elle se veut à cet endroit-là.
Elle joue, vous croyez,
Non, pas forcément, mais elle est plus à quelques petits centimètres au-dessus du sol, quoi.
Bah surtout quand elle attaque le blanc. C'est-à-dire que là,
aussi.
Je ne sais pas combien de verres, combien de prises vous avez... Alors, je sais bien qu'au cinéma, soi-disant, c'est du faux, mais on m'a dit que non. Là, pour l'occurrence, c'était vraiment du vin blanc.
C'est vrai que j'en bois un bon verre cul sec.
Rabord. Le vin rabord, ce qui ne se fait jamais dans la haute.
Ouais. Mais c'est vrai que ce qui est truculent dans le film aussi, c'est tous ces moments dont vous parliez tout à l'heure, de silence gênant, de condescendance un peu maquillée.
Tout... Avec un côté, il n'est pas de chez nous.
Oui, mais à tous les endroits, je trouve qu'il y a des moments comme ça de suspens qui créent la comédie, vraiment. Tous ces regards, ces temps morts avec lesquels on ne sait pas trop quoi faire, chacun dans nos conditions respectives, en fait.
Ils ont tous un côté diabolique, il y a une véritable tension, il y a un peu de Chabrol dans la manière, en bon terme, c'est une belle référence, en tout cas dans l'idée que je veux porter. Vous serez forcément, à un moment donné, vous vous placerez d'un côté ou de l'autre sans trop savoir si vous êtes pour les uns ou pour les autres. Et en fait, ils sont tous, sauf un, ils sont tous diaboliques, ils sont tous dangereux, ils sont tous fous et ça en devient extrêmement drôle, mais avec une véritable tension dramatique qui intervient au fur et à mesure que le film avance. C'est Anthony Cordier qui le signe et il sortira donc ce mercredi au cinéma avec nos invités, mais également Laure Calamy, Noé Habitat, Maya Zrouki, Ramzi Bedia, Sami Outalbali et donc Élodie Bouchèze et Laurent Lafitte. Voici Tanguy Passureau.
C'est pas mal cette demi-célébrité que je vis parce que ça me permet de faire mon métier tout en étant tranquille. Hein. Je peux sniffer du sarrasin sur le dos nu d'un joueur de biniou du Nord Finistère. Bon, je sais qu'il n'y aura pas un paparazzi déguisé en bloc de granit pour venir me shooter. J'adorerais que tout le monde me reconnaisse dans la rue et en même temps, quand ça arrive, je ne sais jamais vraiment comment réagir. Je rougis, je dis un truc comme vous vous trompez, moi c'est Daniel Morin. Je dis ça avec le regard salace de Daniel pour que ce soit crédible, avec bien la sûr. Braguette ouverte et un filet de bave. Mais en réalité, je suis gêné. Je trouve que la vie est plus douce quand on n'est pas super célèbre. Regardez Anne Hidalgo. Façon de parler, hein. Elle n'est pas là avec nous. Ah, non, mais je le dis pour les auditeurs qui, depuis l'affaire Le Grand Cohen, imaginent que la radio est truffée de socialistes. Non, non. Ici, on ne roule pas pour la gauche. Non. Même si Raphaël Glucksmann est probablement l'homme qu'il faut pour 2027. C'est sûr, même. Raphaël Glucksmann! Après Superman, Spider-Man, il va sauver le monde. De Glucksmann. Bref, Hidalgo, vous avez vu, Mediapart a publié ses notes de frais. Bon, elle a notamment acheté des vêtements de luxe. Ok, bon, elle est maire de Paris, capitale de la mode, Fashion Week, tout ça. Elle va pas se saper en pantalon de jogging qui habille. Je veux dire, dans les pays nordiques, ils font ça. Le Premier ministre se balade en sandales en pot de castor. Mais nous, déjà dans les bureaux, il y a des dorures partout. Donc si là-dedans, tu mets un mormon 100% polyester, ça va jurer. La publication de ses notes de frais, c'est de la transparence. Et en même temps, c'est humiliant parce que tout est détaillé. Les gens disent, regardez ce qu'elle fait de notre argent. 6000 euros chez Dior. 1600 chez Gérard Darrel, rien chez La Halle. Voilà, donc il y a des fringues et quelques voyages aussi. Celui à Tahiti qui a fait parler, mais bon, maire de Paris, tu gères des vélos et des rats. À un moment, tu as besoin de t'évader, c'est humain. Et on n'a pas d'intimité quand on est maire de Paris. Les services de la ville ont quand même été obligés de publier un communiqué officiel disant qu'Anne Hidalgo n'avait pas eu recours à un service d'épilation intégrale à Tokyo en 2020. Parce que certains avaient lu ça sur les notes de frais. L'épilation intégrale, comment vous expliquer ? Voyelle de l'aff. Ok, donc c'est l'inverse. Partout, on a commencé à lire qu'on avait plongé Madame Hidalgo dans de la cire chaude. Elle était au Japon pour recevoir le drapeau olympique. Bon, on est d'accord qu'il n'y a pas besoin d'être épilé intégralement pour tenir un drapeau. Ou alors le 14 juillet sur les Champs, ça va ressembler à nos vacances à Mykonos. La ville de Paris a donc répondu non, non, c'était un service de pressing dans l'hôtel. Ne me demandez pas comment on arrive à confondre une veste défroissée et une épilation intégrale. En tout cas, moi, chez 5 à sec, ça m'a toujours paru évident que je ne devais pas me déshabiller et m'allonger sur le comptoir. Mais enfin bon. Ce que je veux vous dire, c'est que nous, les gens pas célèbres, j'exclus de cette catégorie évidemment nos invités, Nagui, Leïla, les chroniqueurs. En fait, je parle pour moi. Eh ben, on n'a pas à se justifier sur l'achat d'une robe ou d'une épilation. On fait ce qu'on veut avec nos économies et nos poils. Hold de lave, si je le croise chez l'esthéticienne, ben, je lui fais juste un petit clin d'œil discret pour lui dire que ça reste entre nous, hein, que ce qui se passe à l'Institut Bangkok Plaisir rue de Cambrai dans le 11e reste à l'Institut Bangkok Plaisir rue de Cambrai dans le 11e, ça ira pas plus loin, quoi. Et puis on est complices comme ça, en plus ça nous fait un petit truc. Et le pire, c'est la rumeur. Il n'y a rien de plus insidieux que ça. Vous savez, ce bruit écœurant qui s'amplifie à chaque personne qui rejoint la boucle et qui nous disqualifie en tant qu'être humain. Un seul exemple, Brigitte Macron. On pense qu'on veut de cette pauvre dame, hein, qui se retrouve mariée à l'être le plus impopulaire de l'histoire de France. Même Monique Olivier, la femme de Michel Fourniret, n'a pas vécu ça. Macron est à 17% de satisfait, ça s'est jamais vu. Du coup, il tente des trucs à l'international. Bon, on va plus le voir à moins de 1000 km de la frontière. Bref, vous savez, depuis des années, il y a cette rumeur débile, là, qui, comme quoi Brigitte Macron serait un mec. Ok, bon. Enfin, moi, j'ai toujours dit, du moment que le job est fait, tu peux bien sortir avec toute une troupe de sapeurs-pompiers à perruque. On devrait s'en moquer avec la même vigueur que Michel Sardou se moque du rythme de parution du journal L'Humanité. Et en fait, on devrait acter le fait que ceux qui s'intéressent à qui a un zizi, qui a une zézette, sont quand même très cons, ou s'ennuient beaucoup, et laisser courir. Exemple, tiens, prenez-moi. Ce corps gracile que j'ai pourrait faire dire à certains que je suis née fille. J'ai des ongles impeccables et une nuque extrêmement douce. Une vraie petite fleur. À Silence, ça pousse, il rediffuse mes chroniques. Quand on invitait encore Gérard Depardieu, je faisais mes papiers derrière un paravent, de peur qu'il soit excité. Et je vous le dis, si un jour une rumeur prétend que je ne suis pas née Tanguy, mais Chloé, ou plus vraisemblablement Micheline à cause de mon âge. Bon, bah, pas une seconde, je me fatiguerai à démentir. Démentir, c'est considérer la rumeur. Et là, ce week-end, j'ai lu que le couple Macron allait présenter des preuves scientifiques que Brigitte est une femme cisgenre. Je sais pas quoi, je sais pas ce que ça va être, l'épreuve des photos d'elle en 91, en train de lire Fanfan d'Alexandre Jardin avec l'air rêveur, ou la vidéo d'une soirée Dirty Dancing où elle attendait dans un coin que l'autre la fasse partir sur un cha-cha. Ok, ils sont obligés de fournir ces preuves parce qu'ils portent plainte pour diffamation contre Candace Owens, une podcasteuse spécialisée de zigounette qui tape 10 millions de dollars en colportant ce genre de rumeurs. Mais vous voyez à quel point être exposé est néfaste. Donc Nagui, Leïla, il n'est pas trop tard. La radio ici Picardie vous attend. Hein, pour le loyer que vous avez à Paris, à Château-Thierry, vous avez la ville. Ça a déjà commencé. Regardez cette histoire de chevaux, Nagui, on en parle beaucoup, mais enfin c'est délirant, non ? Hein ? D'autant que ce sont des ânes que vous démembrez la nuit en hurlant. Tout le monde le sait. Je souhaite ne jamais avoir à justifier mon genre, ni la somme que je mets dans des épilations intégrales à Tokyo. Et pour ceci, ne faites pas de moi une star et surtout ne venez pas me voir en spectacle, par pitié. Bisous.
Tanguy Pastiaud, et pourtant, il faut aller le voir en spectacle.
Alors, n'allez surtout pas le voir le 16 octobre au Théâtre de la Gaîté, Rive Gauche, c'est à Paris, n'y allez pas.
Classe moyenne sort ce mercredi au cinéma, d'autres événements culturels, oui. Leïla.
Dans l'actualité, l'ouverture du procès aujourd'hui de Cédric Jubillar. 4 semaines d'audience pour ce procès hors norme. Je rappelle que Cédric Jubillar est accusé du meurtre de son épouse, disparue en décembre 2020, déjà quasiment 5 ans. Quel est le point commun entre cette affaire, l'affaire Agnès Leroux et l'affaire Viguier, qui sont deux autres affaires qui ont marqué le temps judiciaire français? Pas de corps, pas d'aveu. Pas de scène de crime. Ce sont donc des affaires qui passionnent particulièrement les gens parce qu'on ne sait pas, on n'a pas d'éléments. Pour autant, ça n'a pas empêché dans les deux affaires que je viens de citer d'avoir des condamnations pour meurtre puisque la justice n'a pas nécessairement besoin de retrouver un corps pour pouvoir émettre une sentence. Dans l'affaire Viguier, c'était cette histoire de cette épouse qui avait aussi disparu sans laisser de traces et c'est donc son mari qui a été inquiété et qui a été condamné. Et pour Agnès Leroux, cette héritière d'un casino à Nice. C'était son amant, je pense, un ancien avocat radié du barreau qui a été condamné, Maurice Agnellet, vous vous souvenez de son nom peut-être, à une 20aine d'années de prison. Ces affaires-là, il y en a beaucoup dans l'histoire judiciaire française. Pas de corps, pas d'aveu, pas de scène de crime. Ça suscite beaucoup d'intérêt de la part des gens. Le procès qui s'ouvre aujourd'hui à Albi, la capitale tarnaise, fait que beaucoup de gens se massent dans la ville pour pouvoir apercevoir des protagonistes de l'affaire. Il y a beaucoup de médias qui sont accrédités aussi pour suivre ce dossier, parce que c'est l'affaire qui passionne en ce moment. Dans les affaires que vous suivez avec attention, quelles sont-elles? Il y a des affaires en particulier que vous suivez, Laurent?
Oui, en ce moment, je suis assez captivé par le procès de l'anesthésiste
Péchier.
Ouais. Voilà, ouais.
Ouais. Au point de quoi? De lire des articles dessus, de chercher?
Ah oui, je suis tout, parce que là, c'est pareil, il n'y a pas de preuves directes.
Oui.
On
en a parlé ici la semaine dernière. Ah oui. Et oui, mais c'est vrai que c'est une affaire très... moi aussi qui me passionne. Ouais. J'ai envie de savoir. J'ai envie de savoir l'issue. Et vous, Élodie, est-ce que vous avez une curiosité pour ça?
De moins en moins, je vous avoue. Ouais. Je préfère m'évader dans la littérature, le cinéma, enfin, prendre du large avec tout ce qui se passe.
Se détacher d'un réel qui est parfois...
très noir.
Qui est très, très noir.
On a l'impression d'être des petits voyeurs.
Non, c'est pas ça.
C'est pas notre journée, Laurent.
Moi aussi, j'aime bien les livres.
Élégant. Fait d'hiver. Voilà.
Bah, je suis dans l'équipe Fait d'hiver, mais c'est vrai que en plus ça passionne d'autant plus les gens qu'ils partent à la recherche d'éléments. On l'avait vu dans Les pistolets en plastique, le film de Meurice, qui était quand même à pleurer de rire, comment des enquêtrices autoproclamées essayaient de trouver des éléments sur les affaires, et c'est encore ce qui se passe pour des affaires très très anciennes, parce que tout le monde a le fantasme d'avoir la preuve irréfutable qui pourrait mener la culpabilité de la personne
incriminée. Ça va devenir un film?
Ah bah, il y a tous les éléments pour que dans 10 ans, on ait au moins un documentaire Netflix sur l'affaire, et puis des révélations. Ah ouais, c'est vrai. Donc là, récemment, ce qui s'est passé dans l'affaire Jubilard, c'est une de ses compagnes, la récente, qui aurait dit qu'il aurait avoué le meurtre, sans pour autant indiquer où se trouvait le corps. Mmh. Et dans toutes les affaires que j'ai citées, à chaque fois, l'affaire Agnès Leroux, je crois, ou Viguier, un des enfants raconte comment le père se serait confié à eux à l'adolescence sur la réalité de ce meurtre, mais à chaque fois, c'est des preuves qui ne sont pas vérifiables. Donc ça, c'est une affaire qui tient en haleine et que vous allez suivre, à mon avis, dans la presse très, très quotidiennement. Autre question, si je vous parle de Virginie Despentes, de Rebecca Warrior ou encore de Sorge Chalandon, quel est leur point commun à tous les trois, ces auteurs?
Bientôt au théâtre?
Non.
Ils ont tous été adaptés au cinéma?
Ils ont tous été adaptés au cinéma. Rebecca Warrior, pas encore. Non. C'est son premier roman, donc pas encore, complètement.
Elles ont perdu...
Non, ils n'ont pas perdu. C'est en lien avec une conversation qu'on a eue plus tôt dans l'émission.
Lutte des classes.
C'est pas la lutte des classes, non.
L'épilation définitive.
C'est pas l'épilation définitive pour...
intégrale.
Je pense, pour aucune d'entre eux, d'ailleurs.
Sors,
ça va pas l'air d'être le genre, mais après, voilà. C'est en lien avec la littérature, bien sûr. La littérature.
Un prix obtenu?
Non, pas
la guerre.
Non.
Le capital culturel?
Non. Je vous le donne.
Ouais.
Oui.
Tous ces auteurs publient dans des maisons du groupe Hachette.
Ah, okay.
Un groupe qui appartient donc...
à Vincent Bolloré.
Absolument. Et c'est une contradiction qui est pointée du doigt par un collectif, Désarmé Bolloré. Un excellent article est à retrouver sur Libération, qui explique que la galaxie Hachette, c'est énorme. C'est Fayard, c'est Grasset, c'est Stock, c'est Calman Lévy, c'est Jean-Claude Lattès. Et si pour l'instant, dans toutes ces maisons, sauf une, aucun virage complètement à droite n'a été pris, sauf chez Fayard, je vous rappelle qu'il a publié Bardella, pour l'instant, les auteurs qui sont dans les autres maisons...
Et qui a viré tous ceux qui faisaient l'essence de cette édition.
Voilà. Pour les autres maisons, pour l'instant, il n'y a pas eu d'intervention directe et d'orientation dans une ligne éditoriale politique. Mais on ne sait pas ce qui peut arriver. Donc les auteurs contactés, je pense notamment à Virginie Despentes, elle répond très clairement. On le sait, elle est complètement à l'opposé de Vincent Bolloré politiquement et pour tous les combats qu'elle peut mener, mais elle explique qu'elle a un contrat qui la lie. En gros, jusqu'à sa mort 70 ans après, ce qui fait que si elle quitte Grasset, elle perd absolument tous ses droits. Ses droits d'adaptation au théâtre, ses droits d'adaptation au cinéma, ses droits tout simplement, les droits de son bouquin.
Elle est prisonnière.
Elle est complètement prisonnière, puisqu'en effet, en littérature, dans le contrat en tout cas qu'elle a signé, et je ne sais pas si les futurs contrats seront réadaptés, il n'y a pas de clause de conscience. Donc elle ne peut pas dire, mince, l'éditeur, la maison d'édition qui a été rachetée par un gros groupe et maintenant le propriétaire qui met donc son argent au service de la montée de l'extrême droite et de la christianisation de la France, en gros c'est un peu le même progrès, le projet que Sterrain, dont on a parlé la semaine dernière avec les Fables de La Fontaine, cette exposition à Paris qui est financée par ce milliardaire d'extrême droite, elle est coincée. Ensuite il y a d'autres positions, des auteurs qui peuvent dire, moi je veux lutter de l'intérieur, donc je veux continuer à écrire, mais ça sous-tend d'accepter aussi d'enrichir le propriétaire, puisqu'à chaque fois que vous vendez un livre, vous vous doutez bien que l'argent va aussi dans ce circuit-là. C'est difficile de faire un choix, c'est difficile de se positionner sans doute quand on est déjà un auteur reconnu dans une maison d'édition.
Et lié à ce point.
Et lié à ce point, alors maintenant...
C'est fou, les contrats à vie quand même, je ne savais même pas que ça puisse exister.
Ça se fait moins maintenant. Hein,
oui, mais en tout cas, elle, c'est, à l'époque, ouais, c'est, ça a été fait comme ça, et elle est vraiment, vraiment coincée.
Il n'y a que Daniel Morin avec Inter qui a un contrat à vie.
C'est vrai. Et lui, il a dit non, non, me verrez pas. Je rappelle quand même ce nom assez puissant. C'est un peu Dominique de Villepin, tu sais, c'est le nom.
Voilà. C'est complètement ça.
C'est complètement ça. Sauf que ça sous-tend aussi aujourd'hui que si vous voulez écrire un livre, c'est intéressant de réfléchir à la maison à laquelle vous voulez confier votre manuscrit.
Et de relire le contrat.
Et puis le contrat. Jusqu'à combien de temps vous êtes tenu par ça, Bolloré?
Parce qu'il y a sûrement un côté rassurant pour elle d'avoir signé ce contrat en disant au moins
à l'époque,
je suis protégée
il y a très longtemps.
Des années. Voilà, c'est
oui,
ça.
Quand elle était encore en accord avec l'orientation politique du propriétaire. Ouais. Non, elle est toujours en accord avec la ligne éditoriale puisqu'il n'est pas encore intervenu, mais okay, elle sait qu'elle enrichit quelqu'un avec lequel elle n'est pas d'accord.
Voilà. Les projets, le 5 décembre, mais c'est déjà, les places sont en vente. Le 5 décembre, vous serez, Laurent Lafitte, Albin, alias Zaza, dans La Cage aux Folles. Comédie musicale, comédie musicale. De la pièce de Jean Poiret, mise en scène par Olivier Py au Théâtre du Châtelet. Vous travaillez déjà au quotidien?
Je travaille le chant tous les jours et je vais commencer les petits coachings de danse, là, et on commence à répéter fin octobre.
Dans quel état êtes-vous? C'est de l'excitation, c'est de l'angoisse,
c'est tout ça.
C'est du plaisir.
C'est tout ça, ouais, c'est beaucoup de plaisir. Mais avant de répéter, je suis toujours très angoissé parce que bon, puis que dès que je commence à être vraiment dans le travail, là, les choses se rationalisent.
Qui est Renato?
Damien Bigourdan, qui est voilà, comédien et chanteur lyrique, qui a déjà travaillé avec Olivier Py sur de l'opéra.
Vous serez également dans Le Voyant des Tempes, ça sera au cinéma. Le 15 octobre, vous avez prêté votre voix à Marcel Pagnol. J'ai dit une bêtise?
Le Voyant des Tempes, je suis en train de l'adapter là, mais c'est mon prochain film.
Ah, c'est votre prochain film.
Oui, je suis en train de l'écrire.
Pardon. Mais Marcel et Monsieur Pagnol, c'est bien votre voix.
C'est ma voix, oui, le film de Sylvain Chaumet.
Et vous serez à l'affiche également de La Femme la plus riche du monde de Thierry Cliffa. Ça sera fin octobre que le film sortira. Le film, vous rentrerez en production quand vous êtes en train d'adapter, c'est ça?
Oui, je suis en train d'écrire. Ça commence.
On a hâte après L'Origine du Monde, qui était une réussite à nos yeux. En tout cas, on a hâte. Élodie, vous venez de terminer le tournage des Faussaires d'Eva
Husson
avec Soko, c'est pour Arte, aux racines dont on parlait tout à l'heure. Et vous serez également dans Les Rives du Fleuve, l'adaptation de Guillaume Niclou des Fossoyeurs de Victor Castanet, c'est ça?
Voilà, France 2.
Et dans Ulysse? Et dans Ulysse de Laetitia Masson?
Ulysse de Laetitia Masson, un film pour le cinéma. Là.
Parfait. Classe moyenne sort ce mercredi au cinéma, à la fois drôle, méchant, satirique, concret, tout y est, en tout cas pour vous passer un bon moment. Et puis peut-être se poser des questions après sur le comportement que l'on a, soit dans la société par rapport aux uns et aux autres, aux plus petits, aux plus grands. Enfin, ça. Il y a de quoi aller prendre un pot derrière et discuter, en tout cas. Il y a de quoi. Des excuses à présenter, Daniel Morin.
Absolument, désolé pour tous nos auditeurs tendance nature et découverte qui ont été choqués par la promotion de l'épilation intégrale sur cette antenne. Attention, hein, c'est Tanguy Micheline qui s'intéresse à l'épilation intégrale. Ici, le poil est roi. On a quand même autour de la table tous les jours Old Olaf, le grizzly troubadour et Nagui, qu'on surnomme souvent le gorille nain d'Alexandrie. Désolé pour tous les gens fortunés qui nous écoutent et qui ont été choqués ce matin par le parti pris ultra-gauche, bolchevico, pseudo-humaniste de cette émission. Alors c'est vrai, c'est choquant ce parti pris prolétaro-friendly. Du coup, demain, on se rattrape, on reçoit Bernard Arnault pour son livre « Dividendes et savoir-vivre ». Désolé pour Laurent Lafitte. Disney m'a appelé à la pause. Ils m'ont appelé, mais vous ne répondiez pas. Donc ils voulaient vous proposer dans leur prochaine série le rôle de Rox dans un remake de Rox et Rocky. C'est sur 10 épisodes. C'est payé $500,000 par épisode. J'ai répondu pour vous. Hein. J'ai dit oui. Avoir des valeurs et des principes, ok, mais à $500,000 l'épisode, ça ne tient plus.
Bonne journée, merci beaucoup Élodie Bouchèze, merci Laurent Lafitte, et bravo.
Merci à vous.
Bravo également à Ramzi Bédia et Laure Calamy et tout autant Samy Talbali, Noé Habitat et Maya Zrouki qui sont parfaits les uns et les autres dans ce film d'Anthony Cordier. Demain, Camille Cotin et Romain Duris seront nos invités pour Rembrandt. Passez une belle journée sur Inter.